Je te lis, je te plie, je te froisse et tu cries. Au fond, t'es un journal. Tu t'en prendrais plutôt pour 5 colonnes. Chez toi, le fait divers sonne comme un outrage. Tu es partout chez toi. Et même au mot croisé, tu m'y fais deviner les armes de ta voix. Je t'aime, et verticalement, c'est bien. Tu croises dans mes yeux, quand je suis ton pirate. Je te lis, je te plie, je te froisse et tu cries. Quand je t'aurai bien lu, y compris les annonces, j'irai au marché aux poissons et t'envelopperai de moules vertes. Au fond, t'es un journal mouillé, avec ta robe imprimée en blanc et noir et tes paroles que personne ne pourra plus lire. Tu seras ma dernière nouvelle, effacée sur le sable. Tu seras mienne pour la mort. Je t'aime, et même avec la fin du monde. La fin du monde abstraite, où tout n'est que chiffré, avec ses cœurs d'acier, leurs battements chiffrés, avec ses poumons d'or, dans les cages ascenseurs où l'on se tient debout, où l'on se tient tailleur. Tu vas descendre là pour t'entendre rêver, même le rêve gueule à n'y pouvoir plus rien. Le silence est rempli du silence trop plein. Quand ça déborde, on croit venu la fin des temps, de ces temps mesurés sur des machines obscènes, où les minutes ont des cons qui se promènent, en se prenant pour l'éternité, et même avec la fin du monde. Je me démerderai pour que t'y vois que dalle. Que dalle, c'est pas mal, ça ne fait que passer. Ce rien qui prend ses aises au week-end de la mort, quand les ballots y accélèrent leurs victimes, enchâssées, encrustées, encollées à mon froc. Tu partiras là-bas vers des boutiques fantastiques, vers le supermarché où l'on vend la paresse, où l'on vend de la mort aussi. Quand on s'y laisse, où l'on vend la fumée, le vent à paquet, et l'on paie en sortant avec des sortilèges l'instant. Il va fondre sur toi, comme la foudre, à 300 000 bornes à la seconde. Il n'aura pas le temps de s'attarder au feu rouge. On grillera les feux d'alarme, on grillera les feux d'alarme. Et ma pensée qui te devance, et ma pensée qui te devance. Regarde, regarde, regarde. Écoute bien le chant de cet enfant maudit que tu croiras ton mec et qui n'est qu'un mirage, oublié par ma mère. Au fond d'une poubelle, cette éternelle nuit. Bien se laver le cul, c'est donc ça le désordre. C'est bien ça le désordre. Regarde-moi, là, dans mes yeux. Regarde, 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 viens, l'instant. Comme à l'automne, les bandits jaunes qui font aux arbres des hold-up mordorés. Aux arbres, des hold-up mordorés. Et tu vas t'envahir, et tu vas t'immerger, et te coloniser. Tu es seul, 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 dans mes pattes, comme un saxon gueulant, des chants désespérés, des cris, sont des violons des rues, des flûtes de laiton, et tu t'en fous, c'est là, il est là. Entends la mer, qui te remonte dans la gueule. Et cette marée double au fond de tes yeux feu, dans le feu de tes yeux mon regard s'est éteint, dans le feu de tes yeux mon regard s'est éteint. Je, c'est toi. Comment t'appelles-tu? Tu t'appelles la nuit, dans le ventre des filles, de ces filles qui roulent au bord de la mort lente. Tu t'appelles l'amour. Tu es toutes les femmes. Tu es toi. Tu es elle. Des Niagara vernis me tombent dans la gueule. Des Niagara vernis me tombent. Tu n'es plus là parce que tu es moi et que je suis ailleurs. Je et toi, c'est tout comme. Et l'on s'en va mourir au club des nuits cassées. Je et toi, c'est tout comme. Et l'on s'en va mourir au club des nuits cassées. Qui donc réparera l'âme des amants tristes? Qui donc réparera l'âme des amants tristes? Qui donc réparera l'âme des amants tristes? Qui donc ?
Merci Léo Ferré, merci d'être venu à notre rendez-vous.
C'est la fin du Ferrécom Club. Bye bye.
T'as pas faim?
Non, j'ai envie de rien. Je suis bien.
C'est vrai? T'es bien avec moi?
Ah, vous pouvez pas savoir comme je suis bien quand je suis avec vous. Je respire, je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux.
Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu dirais ça à un autre que moi, je trouverais ça idiot, mais tu me le dises comme ça à moi, ben, c'est marrant, ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais.
Moi, c'est moi.
Mercredi 16h. Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire
100 ans, le 17 mai 1904, Jean Gabin.
Ce métier-là, je voulais pas le faire. À l'encontre de tous les gars qui ont voulu faire ce métier, moi, je voulais pas le faire. Parce que je voyais mon père apprendre ses rôles, parce que mon père était dans le métier. Ma mère aussi, elle fait son tour de champ. Moi, je suis un gars de la balle. Moi, je voulais être mécanicien de locomotive à 17 ans.
D'histoire. Le 17 novembre 1976, au cimetière du Père-Lachaise, ils étaient des milliers à venir saluer une dernière fois celui qui fut sans doute le plus grand acteur français du XXe siècle. Les plus âgés se souvenaient du héros de la Bandera, de Pépé le Moko, de la Belle Équipe, de la Bête Humaine, de la Grande Illusion ou de Quai des Brumes. Les plus jeunes de ses rôles de Maigret, du Président, du Saint-Jean-Hiver, du Clan des Siciliens ou de l'affaire Dominici. Pour tout cela, il s'appelait Jean Gabin. Et pour tous ceux qui avaient la chance de l'avoir connu, loin des caméras, en famille, dans sa ferme de l'Orne, pour ses amis de toujours, il était Jean Moncorgé, un homme pudique qui ne parlait jamais de sa vie privée et très rarement de sa jeunesse, quand personne encore n'avait entendu parler de lui.
T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux. Oh, mais t'as de beaux yeux, mais regarde. Regarde-les, ces suicidés qui déambulent boulevard d'Hérital à Paris. Samedi, c'est au vert. Vas-y, camarade, sur l'autoroute. Il y a des songes de coureurs au long cours et qui rongent. Leur frère malade, c'est au vert. Vas-y, camarade. C'est au vert. Vas-y, camarade. T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux. Regarde. Quand ils sont verts, j'y vais cueillir la pâquerette. Quand ils sont bleus, j'y plonge au fond de leur marine. Oh. Quand ils sont noirs, j'y prends le deuil de ma voisine. Quand ils sont mauves, alors j'y cueille ta violette. T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux. Suicidés qui déambulent, boulevard d'Hérital à Paris, samedi, c'est au vert, vas-y, camarade. Je les vois au bras d'une géante noire, en voile noire, en cheveux rouges. Elle passe sur moi, sur ma marche, et ça bouge. Et ça chatte comme un arc-en-ciel me fait minou. La chatte de la mort ne ronronne jamais. T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux. Regarde. Quand ils sont verts, j'y vais m'inscrire à l'espérance. Quand ils sont bleus, je me prends pour ton capitaine. Oh, quand ils sont noirs, je t'y plonge et puis t'y ramène. Quand ils sont mauves, alors mon carême commence. T'as de beaux yeux, tu sais, t'as de beaux yeux. Idées qui déambulent, boulevard d'Hérital à Paris, samedi c'est au vert, vas-y camarade. Le carême de la Camargue, ça commence quand tu regardes. La chatte de Paris la nuit, je la vois, quand tes yeux sont gris. Elle se fait enverguer par des prolos, au ventre triste, qui s'en vont aux urgences, jerkés, avec l'URSSAF.
On va peut-être situer le Vigan.
Ah oui, moi j'ai connu.
Il vit maintenant en Amérique du Sud.
Alors moi j'ai connu le Vigan, je ne connais pas réellement, mais j'ai connu le Vigan en tant qu'amateur de films, un soir. J'allais.
C'est un acteur.
Ouais, un acteur. Non, mais moi amateur de.
Oui, toi, cinéma, amateur de film. Oui.
Au public, quoi. J'allais, quand j'étais étudiant en 36-37, j'allais le jeudi soir au Gaumont, Palace, cinéma, parce que à minuit, la nouvelle semaine commençait. C'est-à-dire qu'on rentrait à 9h du soir, et à minuit, il y a la séance la semaine d'après. C'est-à-dire que pour le même prix, on voyait deux films. Et à ce moment-là, il y avait toujours des films extraordinaires, tous les grands films. Et un beau jour, il y avait le Quai des Brumes, comme ça. Et dans le Quai des Brumes, il y avait ce personnage du peintre qui s'appelait Michel, dans le Quai des Brumes, et qui est un personnage qui était interprété par le Vigan. Et je ne sais pas si tu te souviens de ce film. Et, il y avait un type qui s'appelait Delmont, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, qui tenait une baraque dans la brume. Et ce peintre, qui était un peu un type mélancolique, un peu désespéré, et il a vu que le personnage du militaire qui avait déserté, qui était tenu par Jean Gabin, il a dit, tu diras ce type qui peut être peintre, il pourrait peut-être être peintre, etc. Et il a laissé son costume et ses papiers et sur la plage, et il est allé se noyer. Et à ce moment-là, l'acteur qui tenait la baraque, je me souviens, ça faisait froid dans le dos. Il criait sur le port de Brest, Nord-Brest, je crois, sur la mer, il criait « Michel, Michel, faites pas de conneries, faites pas de conneries !» Et après, le militaire, donc Gabin, est revenu et l'autre lui a dit « Maintenant, tu es peintre, tiens. » Voilà ses habits et ses papiers. Mais ça, c'était du grand cinéma et c'était Prévert.
En fait, pour lui, c'était pas un métier, le cinéma. C'est ce que
je dis
toujours. Non, non, c'était pas du tout un métier. Pour lui, il disait, un métier, c'est docteur, médecin, avocat. Ça, c'était des métiers.
C'est quand même incroyable, quand même. C'était le
grand
acteur de son temps.
Ah oui, non, mais de toute façon, je pense que toute sa carrière, puisqu'il le disait, bon, et pourtant, ça a été jusqu'au bout, mais il disait toujours, c'est pas un métier qui dure, ça. On est balayé d'un seul coup. Donc, il voulait du sûr. Du sûr, c'était la terre, les bovins. Et puis, attention, il y a une chose, il avait toujours peur de manquer de manger. Donc, c'était pour nous, pour ses enfants, il voulait toujours qu'il y ait à manger. parce qu'il avait fait, bon, il avait connu la Première Guerre mondiale et puis la Deuxième. Donc il avait toujours peur de ça.
Alors, cette passion pour la Terre, quand même, elle a été sacrément contrariée par un événement dont tu dis que ça a été un des plus importants de sa vie, une de ses plus grandes douleurs aussi, c'était l'arrivée, l'invasion de sa propriété par des paysans en colère. Ça, ça l'a profondément marqué, c'était en 62.
Maintenant. 62, ouais. Ça a été terrible pour lui, il s'en est jamais remis.
C'est ce qu'on lui reprochait, c'est ce que ces paysans lui reprochaient.
Ben, c'est-à-dire qu'il lui reprochait, c'était en 62, c'était au moment de la loi à l'Assemblée des affaires et des cumuls, qu'une personne ne pouvait pas exploiter plus de tant d'hectares, et on reprochait à papa d'avoir acheté des terres. Ce qu'ils oubliaient de dire, c'est quand même papa les a achetés le double de ce que ça valait, ils étaient bien contents, puis après, ils voulaient qu'il lui loue, que lui n'exploite pas, parce que et c'était pas son métier, il était pas paysan. Et ça, de toute façon, il s'en est jamais remis, il a jamais été le même, avec les gens, par chez nous, là, à côté de à Moulin-la-Marche, les gens qui avaient gardé, qu'il était très proche de lui, il y a certaines personnes, il y a deux, trois personnes comme ça, et disaient, ton père n'a jamais plus été le même, de juillet 62 à après, et même jusqu'en 76, puisqu'en 76, ça a continué quand il y a eu la fameuse sécheresse, et que lui, on l'a dit à la télé qu'il ne toucherait pas l'impôt sécheresse, qu'il ne toucherait pas les subventions. Et moi, j'ai vu papa pleurer pour la première fois. Quand on voit son père pleurer, on n'oublie jamais. Mais il me disait toujours, tu vois, gros-père, ils veulent pas de moi. Ils ont pas compris. Je comprends pas, moi, ce qu'ils voulaient. Ils ont pas compris que moi, je les aimais, que j'aimais la terre, que j'aurais été leur porte-drapeau, que ils auraient pu me demander ce qu'ils voulaient. Et il a jamais compris. Ça a été une blessure qui a jamais été refermée. Et moi, j'en souffre encore. Bon, il disait, toi, tu t'appelleras mon corgé, mais moi, je suis gabin pour eux.
C'était le maire, en 62, qui avait dit, le maire de Bonnefoy, il s'appelait Monsieur Chéret, qui avait dit, mais c'est des vaches de cinéma. C'est-à-dire que c'était pas comme eux, quoi. Enfin, c'était des bêtes quand même, fallait les nourrir. Donc moi j'ai connu ça, j'étais là, donc il a fallu aller chercher de quoi les nourrir, parce qu'il n'y avait plus rien. Et ils font une émission, et ce jour-là, moi je suis à Paris avec papa et maman. Et on est tous les trois à l'appartement. Et pour lui, pour papa, il avait entendu, il y avait une émission qui allait être, qui était faite pour la sécheresse. Donc papa était intéressé, c'était exploitant. Il y avait, je vous dis, il y avait 300, 400 têtes de bovins, oui, 400, les chevaux, tout. Et papa était vraiment concerné. Pour lui, ça a été une année terrible. Et il y a le président de la FNSEA qui est invité par Cavala, Michel de Baptiste.
Avec un plafond de 32 vaches.
Avec un plafond de 30.
De 30. Autrement dit, M. Jean Gabin, par exemple, qui est exploitant agricole dans l'Orne, va toucher quelque chose comme 1 million d'anciens francs.
Non, M. Jean Gabin, justement, ne touchera rien.
Et cela pour...
M. Gabin ne touchera rien. Voilà. Et là, papa s'effondre. Par en pleure. Il y a un moment... Il me prend comme ça. Une demi-heure après, il me dit, il se remet, il me dit, tu vois, gros-père, tu vois, ils ne me veulent pas. Ils ne me voudront jamais.
Quand j'étais gosse haut comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais, je sais. Je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas. Et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Heureusement, comme les copains, j'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie, moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais, seulement plus je cherchais. Et puis moi je savais, il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge, je suis encore à ma fenêtre, je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais.
Les temps difficiles. Suite. Ma femme veut jouer les présidents. Elle dit que c'est très plébiscitant. Pour lui montrer que je suis un homme, je dois lui dire par référendum. Les temps sont difficiles. Le matin c'est oui, le soir c'est non. Elle tient pas compte des abstentions. Ni oui ni non, ça fait coup nul. V'là mon scrutin, je garde mes scrupules. Les temps sont difficiles. J'irai revoir ta Normandie, mon vieux Gabin, mon vieux Grisby. Car la Normandie, c'est notoire, ça mesure que 300 hectares. Les temps sont difficiles. Pour faire face à la vérité, j'ai poussé jusqu'à la télé, où l'on m'a dit, vous demandez qui ? La vérité ? C'est pas ici. Les temps sont difficiles. Le français, ça n'est pas raciste, ça aime les juifs, les anarchistes, les pieds de cochon, les pieds paquets, les pieds au cul, les pieds que tu sais. Les temps sont difficiles. Fini le temps des barbaries, le français aime rester chez lui. Monte Carlo est en faillite, on a que l'Algérie qu'on mérite. Les temps sont difficiles. À Cuba, il n'y a pas que du tabac, de la canne à sucre et de la rumba. Il y a du suspense et de la terreur. Kennedy soigne ses électeurs. Les temps sont difficiles. Trois jours après, on serre la louche. On fout en l'air toutes ses cartouches. Les petits Chinois bouffent de l'Indien. Tiens, 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 tiens. Voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Les temps sont difficiles. À Rome, il y a l'écuménique, de quoi remplir la basilique. Il faut être conciliant, mes frères. Les conciles, c'est si rare, mon père. Les temps sont difficiles. Le Vatican n'est pas d'accord. Il dit qu'à Liège, on a eu tort. Quand tu verras un pape sans bras, avec quoi donc il te bénira ? Les temps sont difficiles. Verlaine est mort dans la détresse. Rembrandt est mort, l'huissier aux fesses. Beethoven est mort dans la merde. J'ai que ce mot-là, faut pas qu'on le perde. Faut distraire le profane. Verlaine est vivant au lycée, Rembrandt est vivant au musée, Beethoven vit chez l'amoureux, tous les dimanches que fait le bon Dieu, quand il est mélomane.
Eh ben voilà, 89, mais je compte là-dedans deux films muets, tu te rappelles?
Ah, tu veux dire, oui, attends. Alors, j'ai tourné un truc qui s'appelait « Où est les valises ?» J'ai pas un truc comme ça. Et puis alors un autre, j'ai tourné « Les lions » avec Dandy.
Dandy.
Un sketch, oui, un sketch muet, ouais, avec Dandy. On était au Moulin Rouge à ce moment-là ensemble, ça doit être vers 26, 27.
Mais c'était tourné au Moulin Rouge ou vous alliez en studio?
Penses-tu, on a été en studio, on l'a tourné en deux jours.
C'était les studios là où il n'y avait pas de lumière, on tournait au soleil, non?
Ah non, non, on a tourné ça, bah où vous êtes maintenant, la télévision, on a tourné ça là-haut
au
but Chaumont, oui.
Ah oui, c'est... Ouais. Il y a un jour, il y aura une plaque.
C'était pas encore le parlant, et c'était muet, quoi. Alors après, c'est sorti sonore, je crois, tu sais, parce qu'il y avait des bruits, ils mettaient des bruits dessus. Avec les lions et tout ça. C'était vers 28-29, ouais, quand ils l'ont sorti.
Alors tout de suite après ces deux ou trois films muets, le parlant c'est venu comment? C'était du théâtre filmé, c'était des chansons, je crois, c'était des opérettes.
L'opérette, oui. Ben, je vais te dire, j'étais au Bouffe à ce moment-là. J'étais au Bouffe et puis alors, c'était l'avènement du parlant, puisque c'est en 30. Et ils cherchaient un jeune premier comique, quoi, pour tourner une opérette. Alors j'étais faire un essai chez Pathé. Et puis, moi, je l'avais trouvé déplorable, l'essai, d'ailleurs. Je trouvais minable, j'avais une gueule impossible. Mais enfin, eux, pour eux, probablement que ça a dû être bon, ils m'ont pris. Et c'est comme ça que j'ai débuté dans une opérette qui s'appelait Chacun sa chance. C'était chouette, les grandes revues, d'ailleurs.
Il y a eu Mistinguette, il y a eu Damien, il y a eu un tas de gens avec toi.
Ah ben, c'est-à-dire que la dernière fois que j'ai fait mon tour de chant, je l'ai fait au Moulin Rouge. Et c'est Damien qui passait en vedette dans le programme.
Et comment ça se passait à cette époque? On se faisait entendre, il n'y avait pas encore la sono, comme ils disent maintenant.
Ah ben non, il n'y avait pas de sono, penses-tu? Il y avait, il y avait un rôle d'orchestre, il y avait au moins 30 musiciens, il fallait passer par-dessus. Alors tu venais chanter au proscenium pour que ça passe, pour que les gars du haut entendent, quoi. Ça, ouais. C'était un autre métier, moi je sais pas comment ils font maintenant.
T'as beaucoup chanté, ensemble. On a des disques de ça, on a des souvenirs de ça, on en entend de temps en temps. Il y a une chanson qu'on a entendue il n'y a pas tellement longtemps... À la radio,
oh,
non
bah, ça doit être un vieux disque qu'ils ont, oui. Là, tu veux dire, quand on se promène au bord de l'eau, peut-être.
Je crois, oui.
Oui, c'était une chanson que je chantais dans le film de Duvivier, La Belle Équipe. Puis alors, attends, à cette époque-là, alors il n'y avait pas de playback. Moi, je l'enregistrais directement, disons. Je me la suis tapé au moins 6-7 fois.
Un seul dimanche, au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux. Suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau.
Bon, alors, ça nous amène au cinéma parlant et au grand film. Quel est le premier grand film que tu as fait, qui t'a fait vraiment démarrer?
Eh bien, écoute, je vais te dire, c'était un film charmant, d'après une pièce d'Achard qui s'appelait La Belle Marinière. J'ai tourné ça avec Madeleine Renaud, que j'adore, entre parenthèses. Alors, Madeleine Renaud et Pierre Blanchard. Et ça s'appelait La Belle Marinière, et c'est Lachmann qui avait mis en scène.
Et c'était le premier important, ça?
Oui, avec réellement un joli film. Mais alors, le premier film alors où j'ai démarré, c'est avec La Bandera, en 34.
De Duvivier.
De Duvivier.
Duvivier, t'as tourné 6 ou 7 fois. Hein.
Ah bah oui, bah, le premier film que j'ai fait avec Duvivier, c'est Maria Chapdelaine. Après, il m'a fait une vacherie, il m'a fait tourner Ponce Pilate dans Golgotha.
Ah oui, c'est... avec Feuillère.
Oui, avec Feuillère, je l'appelle toujours Madame Ponce, d'ailleurs, Feuillère. Et bonjour, Madame Ponce. Et alors, il y a eu au sujet de ce film, il y a eu une critique formidable de Janson. Formidable. Je me suis jamais tant marré. À ce moment-là, il était au canard enchaîné, et il avait écrit « Quand un gamin, il a plutôt l'air de descendre de la courtille que du Golgotha, mais il s'en lave les pognes. » C'est joli, non?
Ça t'amuse maintenant, mais à l'époque...
Oh, je me suis marré. Je me suis marré, c'est marrant, Henri.
Bah oui, il a d'ailleurs pas mal écrit pour toi.
Oui, j'ai fait Pépé le Moco avec lui. Puis d'autres trucs, je ne me rappelle plus.
Bon, tout ça, au fond, avant-guerre, c'était rien que des grands metteurs en scène. Tu as tourné avec Carnet, avec Duvivier, ah, avec
Renoir. J'ai tourné avec Duvivier, Renoir, Carnet, Grémillon. Mais tu sais, je fais plusieurs films avec ces gars-là, tu comprends ?
Oui, chacun.
Parce que finalement, moi, dans l'ensemble, presque tous les films que j'ai faits, je les ai faits avec très peu de metteurs en scène, parce que j'ai tourné 4 ou 5 films avec chaque metteur en scène, des fois plus d'ailleurs.
Ça veut dire que tu es fidèle ou ça veut dire quoi ?
Peut-être, oui, peut-être, oui, je suis fidèle. Je suis fidèle, puis j'aime avoir mes habitudes, moi, tu sais. Je suis pas... Comme ça, je suis à mon aise avec les gars que je connais, tu comprends ? Aussi bien pour les équipes, d'ailleurs. Pour les équipes d'opérateurs, pour les équipes pour le son, tout ça. J'aime pas me retrouver en pays étranger. J'aime bien me retrouver mes vieilles habitudes. Je suis un vieux schnock maintenant. T'sais.
Et puis, il y a eu la guerre, l'occupation et la carrière américaine.
Le dernier film que j'ai tourné, c'est Remorque. De 1939 à 1947, j'ai eu un trou. Alors, évidemment, j'ai fait 2 films en Amérique, mais pour compter ça, tu comprends, j'étais obligé de les faire pour bouffer, c'est comme ça dire. Parce que je m'étais barré, non pas pour plaisir d'aller en Amérique, je le dis tout, franchement, mais c'est parce que j'avais l'autre raison de foutre le camp, tu comprends. Donc je voulais pas venir travailler à Paris à cette époque-là, je suis parti, quoi. J'ai eu l'occasion de partir, je suis parti. Ouais.
Et puis après, ça a raccroché, mais enfin, c'est toujours difficile de reprendre un truc.
Oh, ça a été dur, tu sais. Ça, c'est ce que j'appelle alors ma période noire.
Oui.
Quand le drapeau noir flottait sur la marmite. Là, tu sais, là, c'était pas brillant. Bah, forcément, tu sais, je suis parti, j'avais 37 ans. Alors, je suis parti, j'étais en plein boom, quoi, parce que j'avais tourné tous les bons films que tu connais, que j'ai tourné. Bah, puis la guerre est arrivée, puis je suis revenu, j'avais les cheveux tout blancs. Alors tu sais ce que c'est, les cheveux tout blancs, ça changeait le personnage. Alors, j'ai tourné un très bon film avec Clément, qui s'appelait Au-delà des grilles. C'était un très bon film. Mais c'était pas reparti pour autant. Et les gens croient que c'est reparti après le Grisby, c'est pas vrai, c'est reparti un an après le Grisby. Non, puis où c'est bien reparti, c'est à partir des grandes familles. Alors là, j'en ai fait toute une série qui ont bien marché.
Avec Patelière en particulier.
Avec Patelière, avec Delannoy. J'ai fait...
Il y a eu Les Maigrets avec Delannoy.
Oui, il y a eu Les Maigrets avec Delannoy. Et puis alors j'ai fait... Il y en a un qui a très bien marché. C'est La Traversée de Paris.
Avec une Beauville,
oui. Avec le pauvre André, oui. Ouais. Ça a été un bon film. Et puis alors j'en ai fait avec Gilles, avec Grangier, alors des bons aussi, j'ai fait le Caf Sorbif, le Fils Cardinaux, ils avaient appelé ça Le Sang à la Tête, mais enfin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, Le Fils Cardinaux, c'était un bon film.
Bah, Le Sang à la Tête, Gabin, c'était l'époque où on disait que tu te mettais toute l'en colère, non ?
Ah oui, c'était le collègue qui disait, qui dans le temps, il disait que si j'avais pas une scène de colère, je tournais au port, tu parles. Il n'y a rien de plus fatigant. Alors, je tiens pas du tout, moi, tourner les scènes de colère. Pas du tout, même.
Ils avaient même dit que c'était dans tes contrats.
Oui. Belle connerie entre nous.
Remarque, ceci dit, ils ont de l'imagination, mais en fait, t'avais quand même beaucoup de scènes de colère dans ton film.
Ah bon, vieux, j'avais des scènes de colère, parce que c'est les gars qui m'ont cloqué des scènes de colère. C'était le sujet qui voulait ça. Mais moi, personnellement, je tiens pas du tout. Moi, j'aime mieux tourner un petit truc peinard, moi, tu sais. Moi, j'en fais, puis je suis content, moi.
Metteur en scène, alors, ça t'a jamais dit de le faire ?
Oh ! Oh, il y a un moment où j'aurais... Mais tu sais, si j'avais mis en scène, d'abord, il aurait fallu une bonne histoire, et je l'aurais fait pour les acteurs, parce que moi, j'adore les acteurs. Moi, j'adore les acteurs. C'est chouette, les acteurs. C'est bête, les acteurs.
Et maintenant, je vais vous parler du personnage dont je voulais vous parler tout à l'heure. C'est un nouveau dans le cinéma qui, je crois, réussira. Oui, oui. Ah, c'est mon avis. Il s'appelle Jean Gabin. Voyez-vous ? Il n'est pas dans mon cœur. Il est dans mon cœur, mais il est dans ma coupe en même temps. Voyez-vous ? Regardez. Hein ? Il a un physique intéressant. Hein ? Gabin. G-A-B-I-N. Retenez bien ce nom. Gardez-moi ce faciès. Ah, mais il ne me ressemble pas, mais Il ne pourrait pas chanter les crayons ni la bicyclette, moi. Eh bien, je me permets de faire cette plaisanterie parce que je sais que Jean regarde la télévision, alors peut-être que ça va le faire rire. Enfin, je ne vous ai pas parlé de Gabin pour vous dire toutes ces bêtises, mais pour vous raconter une chose sympathique. L'année dernière, quand Claude Autant-Lara préparait son film, il m'avait contacté pour le rôle de Martin. Ils étaient heureux, je me disais, pourvu que ça marche, pourvu que tout le monde veuille bien de moi. Et il était allé trouver Gabin et il lui avait dit, voilà, pour la traversée de Paris, nous avons pensé à Bourville. Et Gabin a répondu tout de suite, ben, si j'ai Bourville pour jouer avec moi, je signe tout de suite. C'était gentil, ça. Hein? Et comme je n'étais pas là ce jour-là pour lui dire merci, je le fais aujourd'hui. Vous savez que ça ne lui plaît pas que je vous raconte tout ça. Hein? Et je suis sûr qu'en ce moment, il a son air bougon, puis il est en train de me dire, écrase, papa, écrase. Regardons le film.
Frère, c'était un assassin qui travaillait avec la lame. Et chaque soir, après le turbin, il faisait travailler sa femme. Mon père avait un bar de tabac, fréquenté par de drôles de têtes. Ils vivaient tous dans l'aléa et papa plaçait leurs galettes. J'étais alors très jeune. J'ai senti que leur bas de laine filait le mauvais coton. J'ai rompu avec ma famille et je suis parti un soir, comme ça. À la rue.
Marc, et on n'a pas su d'où ça venait. Et tu vois, c'est assez étrange.
Brusquement, cette charmante enfance donna pour un clown qui la faisait pleurer. Et rivé à leur destin, je les suivis dans ce monde qu'on appelle les gens du voyage. Je connus la monotonie du geste nomade, le métier de partir, les roulottes confortables, et j'en vins à haïr ce monde inventé par la détresse, l'ennui, l'atroce loisir. Et toujours ce clown, cet affreux clown aux yeux peints, à la bouche déformée par l'habitude mécanique...
Il s'appelle de Saquet de Corps. Gabin était entre deux pentes, là. Moi, j'avais écrit ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai écrit ça en même temps, sachant que Gabin accepterait de dire le texte. Et c'est passé une fois à la radio, quoi. Voilà, il y a... Combien ça? C'était en quelle année ça?
51, la bande.
51. Voilà. Hein? On repasse pas souvent, hein? Pourtant, Gabin, c'est pas moi.
L'homme prend à peine et fout lui une trempe. Regarde-la, elle ne te ressemble déjà plus. Tamise adorée de l'ennui, Tamise tamisée aux misères lointaines, j'ai vu des bateaux d'aventure qui se déhanchaient de menture. Et je suis parti. Thank you.
Mais ce jour-là vous fit une rencontre capitale. En proue, la grâce d'une femme incluse au beau pré. En poupe, un dragon impénétrable et craint de tous. Au gréement de la toile et encore de la toile cernée de hauts bandes d'azur et d'or. Dans ses flancs, la terreur. C'est ainsi que vous apparut le dernier bateau pirate, Madre de Dios. Épouvantables assassins de l'Atlantique, négriers fous, torses maculés, vous avez le remords tranquille avec la trique. Et les flottes de l'or qui dorment loin d'Europe, au fond des mers figées par le regret, balancent doucement leurs vergues philanthropes. Pendant que vous songez, noyés de l'aventure, aux ventes que vous n'avez pu violer, les ventres d'or de ces bateaux calmures. Ô marins de la course étoilée de rapine, les galions sont ventrus et vous régnez terriblement dans les mémoires sous-marines. Les flancs du Madre de Dios gonflés comme une outre d'amour, je terminais ma carrière de marin pour devenir pirate. Au début, à la cale, les ailes de la mort me frôlèrent. La mort, c'était Johannes de Hambourg, le finisseur, qui avait contracté durant son séjour aux galères une maladie qu'on appelle le mépris de la vie, de la sienne et de celle des autres. La mort, c'était Angot, qui pourtant n'aimait pas le sang. À l'abordage, j'avais remarqué le chic avec lequel il évitait toute effusion. Par contre, il noyait très bien. Parmi cet équipage digne d'intérêt, je me souviens aussi de Rapace, le trop viril qui violait ses dames par constitution et par devoir, plus que par goût. Et au milieu de tous ces hommes sans foi ni loi, il y avait un dieu. Maître avant Dieu, c'était Santa Maria. Avec lui, ce bateau pirate était devenu une épopée à voile. Il dressait ses brutes à coups de lyrisme, de poésie et de musique. Je me souviens un soir, sur le gaillard d'avant, il chanta.
Thank you. Mais un grand bateau descend dans la Garonne, farci de contrebande et bourré d'Espagnols. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais accrochée en poupe par l'école. Un jour, je m'en irai très loin en Amérique, porter des tonnes d'or aux nègres du coton. Je serai le bateau en sang et prophétique, et Bordeaux coulera sous mes vastes voyant sous les tropiques. Un jour je reviendrai les voiles en avant, porteur de blé nouveau avec mes coups de trique. Tout seul, mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnol, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous éclatant de lueur. S'écarteront, saluant la Madone, en poupe par le col et d'une autre couleur.
voyage ne forme rien du tout. Ça m'était difficile de croire à mon destin, sachant que tous les rêves se brisent comme les vagues au long des côtes. Santa Maria avait une gueule à perdre, mais il le savait. C'est pourquoi il pouvait se permettre d'avoir la confession joyeuse. On trahit toujours quelque chose. L'important, c'est de savoir choisir ses trahisons. Lui, il avait su. Les deniers me crevaient les poches comme un songe. Et je fus tout à coup dévoré à quelques milles d'import du monde du désir de conquérir la terre. Je quittais pour toujours le Madre de Dios et m'en allais humant un peu l'humanité. D'humanité. C'est alors que je te rencontrais. Tu faisais partie des grandes catastrophes qui n'arrivent qu'une fois. Dans un bouge à peine connu, j'ai cueilli l'or de tes prunelles. Tu t'es découverte mieux qu'un fruit, tu t'es arrachée. Tes seins n'étaient-ils pas plus certains que les pêches volées au crépuscule dans le champ du voisin? Tes lèvres dansaient la pavane. Enchaîné à l'azur qui te suit à la trace, j'ai sabré ma vie de sac et de corde et je me suis vendu à toi mieux qu'un forban. J'ai réinventé ta vertu et tu m'as inventé à ta mesure. Un soir, j'ai mis à la voile comme un corsaire impénitent sur ton corps écru, et mes toiles t'emportèrent dévotement. Tes dentelles faisaient la voile à ma frégate et frémissaient d'amour aux extents de ma race. Nos plus beaux souvenirs fleurissent sur l'étang de ce lointain château d'une lointaine Espagne. Mes hauts bois en caravane venaient mourir dans tes jardins. Du chagrin, famélique catin aux yeux de l'innocence, la rage que je t'immole aujourd'hui à la force des alphabets rougis sur ma peau de chagrin forme mille drapeaux que mon âme dégorge. Tu m'as fait les mains de l'ennui, des mains à vêtir la chimère. Tu m'as fait les mains du silence, des mains à trancher le hasard. Et j'ai joué à Colin Maillard pour me cogner à ton absence. Tu m'as fait les mains de la haine quand il soufflait sur ton corsage le vent de la miséricorde. Comme un pendu au bout de ma corde, je balançais. Quand il soufflait sur nos voyages le vent de la désespérance. Comme un pendu sur ma potence, je desséchais. Et quand il a soufflé l'amour au voile de ton beau navire afin que nul ne puisse en rire, pourquoi ne t'ai-je donc pas tué? Pour soulever le toit qui me pesait, je n'étais pas le seul à attendre l'orage. Enfin, ma vie reprit hors de ces prisons de malheur. Je passais comme l'or aux cripes des combines. Cette fois-ci, je buvais la lie avec la coupe. J'étais couché sur tous les registres comme un compte en main courante.
Papier, s'il vous plaît.
Vous avez votre permis de travail.
N'oubliez pas le certificat de domicile.
Faites arriver vos passeports, messieurs, dames.
Voulez-vous remplir votre fiche, monsieur?
Ah, oh, foutez-moi la paix, état civil du monde. Et je devins Judas d'Europe, ou bien d'ailleurs. Je sus qu'entre un vrai passeport et un faux, il n'y avait pas de différence de nature, l'important étant de penser, mais une différence d'intention, et que ceci n'avait aucune importance. Parce qu'après tout, quoi? Il suffit de savoir nager pour traverser toutes ces rivières qui se foutaient perdument des barricades préfabriquées. Toutefois, vraie ou fausse, il me fallait une carte d'identité. Oh, j'en eus ma vie durant une bonne centaine. Ce qui me paraît détestable dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Chemin de croix faisant sur les routes du monde, je connus une race d'hommes étranges. Ils portaient la houppelande de leur solitude comme une décoration trop évidente. C'était un uniforme qui collait à leur peau tel un tatouage indélébile. Les émigrants. Je m'en souviens. Ils étaient 100 ce matin-là sur les frontières de Pologne, les émigrants d'Arizona, avec leur cœur au bout des pognes. Et on les comptait lentement, comme on compte la galette, en paquets de 10 et de 100, avec le doigt sur la gâchette. Si j'avais eu le sens du repentir, c'était le moment ou jamais de me vêtir des chaudes laines de la contrition, près d'un confessionnal loué à l'aveuglette. J'avais gâché ma vie, c'était clair. Mais pourquoi m'obstinais-je à croire qu'il existe de beaux gâchis? C'est alors que j'extirpais de mon souvenir les raclures d'une mélopée que me chantait mon ami, vous vous souvenez, le petit cireur noir. Et j'en frappais une mélodie dure comme la pierre qui se vendit à la criée des marchands d'art. Ils la consacrèrent chanson à succès. Et m'autorisèrent par la suite à créer des opéras sans musique et des films sans images, qui se vendirent également très bien. Le tout étant d'être commercial, tout me donna à penser que je devais l'être. Et je commençais à faire des projets et des rêves savoureux.
C'est ce qui manque dans ce monde. C'est ce qui manque. L'intelligence. La connerie, c'est trop vivant, trop présent.
Yeah. ne plus vouloir se regarder et faire murer tous les miroirs, leur interdire de réfléchir l'image d'un sourire, otage d'un soupir. 25 bougies sous oxygène, une mort certaine pour avoir joué au coin d'un bois, au creux de toi, tes lèvres rien qu'une fois, en rêve sous mon toit. Tu es citadelle dans ton château corps pour une bagatelle condamnée à mort. Une étoile rose meurt à pastel pour un coup de cœur, pour pas grand-chose. Tu es puissance, même sans défense. Regarde ton enfance, retarde ton absence. Tu es positif et tu vas mourir. Tu es négatif, tu vas t'en sortir. Et la citadelle dans ton château-corps, pour une bagatelle, se condamne à mort.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
J'ai des tombeaux en abondance, des sépultures à discrétion. Dans tout cimetière, quelque importance, j'ai ma petite concession. De l'humble tertre au mausolée, avec toujours quelqu'un dedans, j'ai des petites bosses plein les allées, et je suis triste cependant, car je n'en ai pas, et ça m'agace, et ça défrise mon blason. Au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison, j'en possède au Père Lachaise, à Bagneux, à Thiers, à Pantin, et jusque ne vous en déplaise, au fond du cimetière marin. À la ville comme à la campagne, partout où l'on peut faire un trou, j'ai même des tombeaux en Espagne qu'on me jalouse peu ou prou. Mais je n'en ai pas la moindre trace, le plus humble petit soupçon. Au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Le jour des morts, je cours, je vole, je vais infatigablement de nécropole en nécropole, de pierre tombale en monument. On m'entrevoit sous une couronne d'immortels à Champéret. Un peu plus tard, c'est à Charonne qu'on m'aperçoit sous un cyprès. Mais seul un fourbe aura l'audace de dire je l'ai vu à l'horizon du cimetière du Montparnasse, à quatre pas de sa maison, à quatre pas de sa maison. Devant le château de ma grand-tante, la marquise de Carabas, ma sainte famille, languide d'attente, mourra-t-elle, mourra-t-elle pas? L'un veut son or, l'autre ses meubles, qui ses bijoux, qui ses bibelots, qui ses forêts, qui ses immeubles, qui ses tapis, qui ses tableaux. Moi je n'implore qu'une grâce, c'est qu'elle passe la morte saison au cimetière du Montparnasse, à quatre pas de ma maison, à quatre pas de ma maison. Ainsi chantait la mort dans l'âme, un jeune homme de bonne tenue, en train de ranimer la flamme du soldat qui lui était connu. Or il advint que le ciel eut marre de l'entendre parler de ses caveaux, et Dieu fit signe à la Camarde de l'expédier rue Froidevaux. Mais les croque-morts qui étaient de Chartres, funeste erreur de livraison, menèrent sa dépouille à Montmartre de l'autre côté de sa maison, de l'autre côté de sa maison.
entre les maigres tiges à récolter entre les pierres.
J'ai un gros bidule au milieu du front, sournois, douloureux et profond. Et puis je peux vous dire que c'est embêtant, j'ai l'air d'avoir 17 ans. Et j'avais pendant quelques jours un rendez-vous avec l'amour. Si ce salaud l'a poussé sur mon cul, je pourrais au moins m'asseoir dessus. Serait-ce un furoncle ou juste un bouton? Serait-ce un panari farceur? Serait-ce un anthrax très furibond? Ou un clou de jolie grandeur? Ou alors juste un petit comédon qu'on fait gicler dans l'ascenseur? Et devrais-je avoir mauvaise façon pour 100 jours ou pour quelques heures? Pour 100 jours ou pour quelques heures? Pour 100 jours ou pour quelques heures? Alors pour l'amour, disons que c'est foutu, on est d'accord, n'en parlons plus. Pour l'air con, disons que c'est mon tour, je suis beau comme un abat-jour. Et pour terminer, quel scandale, ce salaud fait carrément mal. Je l'ai sur la gueule, je l'ai dans le cul, mon chagrin pour m'asseoir dessus. Serait-ce un furoncle ou juste un bouton? Serait-ce un panari farceur? Serait-ce un anthrax très furibond ou un clou de jolie grandeur? Ou juste un petit comédon qu'on fait gicler dans l'ascenseur? Et devrais-je avoir mauvaise façon pour 100 jours ou pour quelques heures? Pour 100 jours ou pour quelques heures? Pour 100 jours ou pour quelques heures? Mais pas du tout, c'est un bubon, on est carrément dans l'horreur.
Légère éclaircie sur ta nuque dégagée, l'amour t'a tant fait luire, je me vois dedans. Ribaud inspiré, chef d'œuvre inachevé. Secoue, secoue, secouez-moi avec méthode. Secoue, secoue, secouez-moi aux antipodes. Cargo déshonoré par cheval fou. Le pic m'élisse a versé au dossier. Jouer ma vertu, mes vertus. Si je suis novice, pourras-tu m'enseigner? Sur ta lutte dégagée. Secoue, secoue, secouez-moi avec méthode. Secoue, secoue, secouez-moi aux antipodes. Dissipe ce flou, n'avions-nous pas rendez-vous? Là j'ai pied. Là j'ai pas pied. Là j'ai pied. Légère éclaircie sur ta nuque dégagée. Le soleil passe à l'ouest, rien à cirer. Le temps pour demain restera incertain. Légère éclaircie sur ta nuque dégagée. Secoue, secoue, secouez-moi avec méthode. Secoue, secoue, secouez-moi aux antipodes. Pauvre cadeau déshonoré par cheval fou. Là j'ai pied. Là j'ai pas pied. Là j'ai pied. Là j'ai pas pied. We'll be right back.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.
Cet homme ne fait pas la causette, pas de chichi, de tralala. Il porte le seau de Cosette, il est si fort, il est si lent. Il est l'ami, il est le père qu'on aurait voulu ici-bas. Et quand il sourit, le grand frère qui nous aurait pris dans ses bras. Les gens n'oublieront pas Valjean, Ventura. Les gens n'oublieront pas Valjean, Ventura. Valjean, Ventura. Sur tous les écrans de la ville, quand apparaît cet homme-là, on se sent rassuré, tranquille, en dépit d'un gros chagrin-là. Les gens n'oublieront pas Valjean, Ventura. Les gens n'oublieront pas Valjean, Ventura. Valjean, Ventura. Sous la neige perce une fleur blanche, c'est-il au printemps que voilà. On a tous nos yeux du dimanche quand on regarde cet homme-là. Les gens n'oublieront pas Valjean, Ventura. Les gens n'oublieront pas Valjean, Ventura. Valjean, Ventura. Cet homme ne fait pas la causette, pas de chichi, de tralala. Il porte le seau de Cosette. Cet homme ne fait pas de cinéma, pas de cinéma.
C'est un faubourg de Buenos Aires, décor de planches et de tonneaux. Les enfants jouent sur la poussière, dans le soir passent des oiseaux. On ne reverra plus le père des messieurs sont venus tantôt. Crâne rasé, gueule sévère, longtemps mené dans une auto. C'est un faubourg de Buenos Aires, les yeux lavés par les sanglots. Le dos courbé par la misère, des femmes vont chercher de l'eau.
dans la prison les militaires, des suppliciés brisent les os. La chair éclate sous le fer, le sang gicle sur les carreaux. C'est un faubourg de Buenos Aires, la nuit sera noire bientôt. Les mots sont cachés dans les pierres, la peur habite les cerveaux. Dans leur palais, dans leur repère, comment s'endorment les bourreaux. C'est à l'autre bout de la terre, tout est calme.
Femme libre.
Femme qui se libère. Femme qui prenne la parole.
Femme qui témoigne.
Femme qui crée.
Femme qui se révolte.
Femme qui lutte.
C'est Femme libre
sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes. Parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime les femmes. Ensemble, libérons-nous. Levons
Femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonsoir à toutes et tous. Nous sommes le mercredi 2 septembre. C'est la reprise pour l'émission Femmes libres. Et c'est la 27e émission de cette année 2026. Émission féministe et anarchiste pour combattre patriarcat, capitalisme, religion, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. Et Sylvie est aux manettes. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Hélène.
Et l'émission, c'est tous les mercredis entre 18h30 et 20h30. Pour nous suivre, émission trait d'union femmeslibres.blogspot.com. En allant sur notre blog, donc on peut réécouter les émissions, avoir le programme, et on peut aussi nous suivre sur Facebook et Miss Cloud. Et tout ça, c'est grâce à Sylvie. Voilà, le programme de ce soir, de Ève à Philomène, sans oublier les autres, portrait d'une suffragette néo-zélandaise, Mary Titai Mangakaya. Voilà. Mais Sylvie va nous en parler longuement. Et ensuite, nous avons prévu de vous rediffuser les 40 ans de l'émission Femmes libres, puisque le 20 juin 2026, l'espace Louise Michel de Paris accueillait l'émission pour fêter les 40 ans de radiophonie féministe. Eh bien, ce soir, nous écouterons la séquence 1, c'est-à-dire la création de l'émission, qui était Nelly Troumel, comment elle a structuré l'émission. Et puis, on entendra aussi Françoise Pic, Mathilde Leroy et Marie-Jo Bonnet dans une table ronde. Et on terminera par un bon moment avec les pétroleuses. L'émission se continuera avec un troisième temps, des infos, des communiqués, des rendez-vous. Mais pour le moment, de Eve à Philomène, sans oublier les autres, le portrait de Mary.
De Eve à Philomène, sans oublier les autres. Philomène, c'est mon arrière-grand-mère. Elle était chef de gare dans les années 1900 et on disait d'elle que c'était une femme de tête qui faisait un métier d'homme. Il y aurait donc des femmes sans tête et des métiers de femmes. Ma rubrique va à la rencontre de toutes ces femmes sans tête qui, depuis la nuit des temps, ont été invisibilisées.
Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines. Clara Zetkin, Anaïs Nin, ou Garbeau dans la Reine Christine. Sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille, Claudel, Mamselle.